Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
4 août 1983, 4 août 2021, cela fait 38 ans que le Burkina connaissait sa révolution. Une révolution menée par le capitaine Thomas Sankara. Examen de fin d'année scolaire, les meilleurs élèves du pays étaient hier au palais présidentiel. Et puis assise de l'éducation nationale, le lancement officiel des travaux de validation du document de base a eu lieu ce matin. Révolution d'août 83, on en parle avec notre invité du jour, Maître Eman Yamehogo, écrivain et homme politique. Selon lui, s'il y avait de bonnes intentions de la part de certains révolutionnaires, il y en a aussi qui, par leur pratique méprisante des droits de l'homme, laissaient présager des difficultés pour le pays. Bonjour. Le Burkina Faso célèbre aujourd'hui, mercredi 4 août 2021, le 38e anniversaire de l'avènement de la révolution démocratique et populaire. Ce jour-là, la RDP venait de pousser ses premiers vagissements. Aujourd'hui, 4 août 1983, des sous-officiers, officiers et hommes du rang ont décidé de prendre le pouvoir, disait le capitaine Thomas Sankara devant le peuple. Retour sur ces événements avec Mohamed Nakanabo.
Tout a commencé en 1974 avec la guerre qui opposa le Mali à l'ex-Haute Volta. À l'époque, certains officiers dont Thomas Sankara dénoncèrent l'absurdité de cette guerre. L'homme, qui revenait d'un stage au centre des parachutistes de Rabat, venait de prendre la tête du centre national d'entraînement des commandos Sénec de Pau au sud-est du Burkina. Auparavant secrétaire d'État à l'information, Tom Sank démissionne avec fracas en mai 1982 en martelant « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple ». Un an après, il est fait premier ministre du président Jean-Baptiste Ouédraogo. En affichant sa différence, Thomas Sankara se heurte à ce qu'on appelait les officiers modérés du Conseil du salut du peuple CSP. Il est mis aux arrêts le 17 mai 1983 avec le commandant Jean-Baptiste Lengani, tandis que le capitaine Henri Zongo est encerclé au camp militaire Guillaume Ouédraogo sur instruction du chef d'état-major, le colonel Yorian Gabriel Sommé. Les 20, 21 et 22 mai 1983, des élèves, étudiants, syndicalistes et hommes de gauche envahissent les rues de Ouagadougou et exigent la libération des détenus. Cette série d'événements se poursuit jusqu'au 4 août 1983 où le capitaine Blaise Compaoré et plusieurs militaires descendent sur Ouagadougou et renversent le régime en place. Le capitaine Thomas Sankara et ses compagnons sont libérés. Il livre alors son premier discours du Conseil national de la Révolution, CNR. Aujourd'hui, 4 août 1983, des sous-officiers, officiers et hommes du rang ont décidé de prendre le pouvoir. Le Conseil national de la Révolution assume désormais le pouvoir d'État, déclarait d'un ton ferme le capitaine Thomas Sankara. Désireux de faire table rase du passé qu'il qualifiait de néocolonial, Thomas Sankara rebaptise la Haute Volta en République démocratique et populaire du Burkina Faso qui signifie « pays des hommes intègres ».
Voilà, parlant de la révolution de 1983, nous en parlons avec notre invité, Maître Eman Yamehogo, enfant en dédition. Et puis je vous en parle en titre, la journée de l'excellence scolaire 2021, une initiative qui vise à encourager les élèves qui ont très bien travaillé à l'école en obtenant les plus fortes moyennes connues, donc son apothéose hier. Cette cinquième édition de la journée de l'excellence scolaire a primé 99 élèves venant du primaire, du post-primaire et du secondaire. Ils ont reçu les félicitations du président du Faso au palais présidentiel. Les détails avec Charles.
Pour construire une nation de paix et de prospérité, il faut penser à l'avenir. Et cela fait déjà 5 ans que le gouvernement fait la promotion de l'excellence dans les écoles à travers les 45 provinces du Burkina. Pour cette édition de 2021, ce sont les 99 élèves qui se sont distingués des autres de par leur abnégation à l'examen du CEP, du BPC et du baccalauréat qui ont été primés. Patricia Nabi, première nationale au BPC avec 19,09 de moyenne, ambitionne devenir pilote après ses études.
Je veux faire la série D, la série C. Et je veux avoir un bac C et pour continuer dans l'aviation. Et pour le moment, c'est ce que je sais pour mon avenir.
Ils sont tous brillants, mais n'ont pas les mêmes ambitions. Ryan Tapsoba, premier national au CEP, avec 9,70 de moyenne sur 10, veut devenir médecin et sauver des vies.
Je leur conseille de bien travailler à l'école et d'écouter les conseils que les maîtres leur donnent et apprendre bien leurs leçons. Après le CEP, je compte être médecin.
En plus d'encourager les élèves dans l'excellence, cette initiative vise aussi à faire la promotion de l'école dans les zones confrontées à l'insécurité. Rochmar Christian Kabore est président du FASO.
Si nous arrivons à organiser une telle cérémonie, c'est parce que l'école, malgré les difficultés que nous connaissons, se poursuit. Et je pense qu'au-delà des écoles fermées, au-delà des difficultés que nous avons connues, c'est quand même un signe important qu'il faut noter. Je voudrais également dire que c'est l'occasion de féliciter les meilleurs élèves de Burkina Faso dans les différents échelons et également de constater que ces résultats nous montrent encore une fois au niveau de ce qui est constaté, qu'ils ont été bons dans les régions à haut défi sécuritaire.
Des enveloppes contenant des sommes allant de 75 000 à 1 million de francs CFA ont été remises à ces étoiles. Ils ont aussi reçu des kits scolaires et des bourses d'études. Des prix spéciaux ont été décernés par ailleurs aux élèves vivant avec un handicap.
Et nous restons dans le monde de l'éducation pour parler des assises nationales. Le lancement officiel des travaux de validation du document de base de ces assises a eu lieu ce matin. Cet atelier devra permettre aux experts du monde de l'éducation de mettre la main sur le document final devant servi lors de ces assises. Les détails avec Abdoulkader Konaté.
Conscient des difficultés qui minent le secteur éducatif au Burkina, l'on s'active déjà du côté du ministère en charge de l'éducation. Objectif: préparer les assises nationales sur l'éducation à travers la validation d'un document final, d'où la tenue du présent atelier. Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale.
Et donc pendant 3 jours, donc, ce comité technique national n'a pas en son sein ceux qui ont rédigé le document de base, mais qui sont là comme observateurs, va examiner, amender et valider donc ces documents, en l'améliorant bien sûr, de façon à ce que nous ayons des documents de base définitifs qui vont maintenant servir pour les échanges pendant les assises nationales d'éducation nationale. Parce qu'on ne peut pas aller aux assises sans documents de travail. Et donc, ce sont les documents de travail qui sont en train d'être préparés. Mais on a souhaité effectivement que cela soit suffisamment participatif, de façon à ce qu'on ait des documents suffisamment bien élaborés qui vont favoriser des échanges et qui vont favoriser certainement des prises de décision, des recommandations.
Aucun sujet ne sera tabou. Et toutes les problématiques seront abordées durant ces travaux.
Ah oui, nécessairement, parce que c'est une préoccupation fondamentale. Au niveau du ministère en charge de l'éducation, avec des partenaires, avec le ministère de la Santé, on travaille sur ces questions. Mais c'est des questions qui vont être abordées pour la question des grossesses, pour la question des réformes. Aucun sujet n'est tabou. Tout sera abordé lors de ces assises. Donc l'objectif ici, c'est d'aboutir donc à des conclusions qui nous permettent d'aller de l'avant.
Notons que le présent atelier a connu la présence du Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré, qui a réaffirmé la volonté du gouvernement burkinabé à accroître le niveau de l'éducation au Burkina Faso.
Le Fonds national d'appui aux travailleurs déflatés et retraités, FONADER, poursuit sa mission d'information et de sensibilisation des personnes retraitées du Burkina. Il était face aux membres de l'Association des policiers retraités de la province du Oui hier. Des précisions avec Paul Soma depuis Bobo-Dioulasso.
Faciliter la réinsertion socio-économique des travailleurs déflatés et retraités est l'un des rôles du FONADER, Fonds national d'appui aux travailleurs déflatés et retraités. Il permet cependant à ces personnes ayant quitté la vie active de continuer à être des acteurs de production. La rencontre de Bobo-Dioulasso a réuni une centaine de policiers admis à la retraite afin de leur présenter les avantages de ce fonds. Sibiri Omar Compaoré est le directeur général du FONADER.
Nous sommes là pour accompagner nos aînés qui ont eu la chance d'être admis à la retraite, d'entamer, d'amorcer une seconde carrière. Vous savez que nous avons 3 missions. C'est les missions d'accompagnement en termes financiers, c'est les missions de formation et les missions de valorisation de l'expertise et des expériences des personnes admises à la retraite.
Présent à cette rencontre d'échange entre le FONADER et ses aînés, le directeur régional de la police nationale des Hauts-Bassins loue l'initiative. Commissaire divisionnaire de police Arjuma Karama.
En tant que travailleur, je me sens directement concerné par l'initiative que le Fonds national d'appui au travail déplacé et retraité vient apporter aux gens qui ont servi la nation et aujourd'hui qui sont en train d'entamer ou d'autres ont déjà entamé notre carrière.
Les bénéficiaires des Bobo du Lasso saluent cet engagement du gouvernement à travers le FONADER en faveur des personnes retraitées et déflattées. Issouf Lalé, président de l'association des retraités de la police nationale du Houé.
Nous, on pense qu'une fois la retraite, on est laissé pour compte. S'il y a une structure qui pense à nous, moi, je crois que c'est la bienvenue. Nous, ce qui est, nous attendons, c'est une sortie de l'ordinaire.
Créé en 2008, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités apporte à chaque acteur concerné dans le domaine dans lequel il peut exceller l'appui nécessaire afin qu'il puisse développer une activité productrice et continuer à se maintenir en croix ses premiers responsables. Paul Soma, Bobo, Radio Omega.
Omega Sport.
Bernabé Cabré nous présente l'actualité sportive.
Amis sportifs, bonjour. Hugues Fabrice Zango peut entrer ce soir dans les annales de l'histoire du Burkina Faso. L'athlète burkinabé dispute cette nuit à partir de 2h la finale du triple saut des Jeux Olympiques de Tokyo. Qualifié pour cette finale après un bond à 16m83, Zango est gonflé à bloc pour offrir à son pays sa première médaille olympique de l'histoire. La Jamaïcaine Hélène Thompson-Hera, déjà sacrée sur 100 mètres, a remporté hier mardi le 200 mètres dames. La Namibienne Christine Boma est arrivée deuxième et l'Américaine Gabrielle Thomas troisième. L'Ivoirienne José-Marie Talou a terminé cinquième à cette course de 200 mètres dames. Le Norvégien Carsten Warholm, lui, a décroché le titre de champion olympique du 400 mètres haies. Mieux, il a fait tomber son propre record avec un chrono de 45,94, devenant ainsi le premier homme à passer sous la barre des 46 secondes dans l'épreuve. En boxe, le Ghanéen Samuel Takyi a terminé troisième chez les moins de 57 kg. Il offre ainsi au Ghana sa première médaille olympique depuis 1992. Le concours du saut à la perche a été remporté par le Suédois Armand Duplantis avec 6,02 m devant l'Américain Christopher Nielsen 5,97 m et le Brésilien Thiago Braz 5,92 m. En football, la finale du tournoi masculin opposera le Brésil, champion en titre, à l'Espagne. Les Brésiliens ont sorti le Mexique au tir au but 0-0 au coup de sifflet final. Les Espagnols ont eux décroché leur ticket en battant le pays organisateur, le Japon 1-0 après prolongation. Les préliminaires allées de la Ligue des Champions se sont jouées hier soir. Le Shakhtar Donetsk de Franck Lassina Traoré est allé battre les Belges du Racing Club de Genk 2-1. 86 minutes de jeu pour Franck Lassina Traoré. En cas de qualification, le club ukrainien affrontera en barrage le vainqueur du duel Sparta-Prague AS Monaco. Les Monégasques sont allés s'imposer hier 2-0 sur la pelouse du Sparta-Prague. Mercato à présent, Abdou Razak Traoré jouera désormais en deuxième division chinoise. Le milieu de terrain burkinabé, arrivé en fin de contrat à Giresun Sport en deuxième division en Turquie, a décidé de filer à Natong Zinyun. Âgé de 32 ans, Raza connaîtra le 10e club professionnel de sa carrière après le Raja de Casablanca, Rosenborg, le Lecha Gangs, Gaziantepspor, Karabük Spor, Konyaspor, Sivasspor, Bursaspor et Giresun Spor. Et pour terminer, en quête d'un attaquant, Chelsea a tenté de faire signer Romelu Lukaku. Les Blues ont proposé 100 millions d'euros plus le latéral gauche Marcos Alonso, une proposition immédiatement balayée par l'Inter Milan.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Révolution d'août 83, on en parle avec notre invité, Maître Eman Yamego, homme politique et écrivain. Selon lui, s'il y avait de bonnes intentions de la part de certains révolutionnaires, il y en a aussi qui, par leur pratique méprisante des droits de l'homme, laissaient présager des difficultés pour le pays. Au micro de Brigitte Oda, il nous dit comment il a vécu cette période historique du Burkina.
Eman Yamego, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes le 4 août 2021, 38 ans aujourd'hui après l'avènement de la révolution d'août 83, conduite par Thomas Sankara. Comment aviez-vous vécu cette période ?
Nous avons vu venir cet événement avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'il y avait une promesse de démocratisation, une promesse du retour de l'armée dans les casernes, qui avait été faite par le CSP de Jean-Baptiste Ouédraogo. Donc nous escomptions que l'on en finisse avec les coups d'État pour aller, en tout cas, avec le retour à la démocratie. Mais pendant le CSP, nous voyons venir les choses parce qu'il y avait une lutte entre plusieurs tendances. Ceux qui effectivement voulaient le retour à la vie démocratique normale et ceux qui estimaient qu'il fallait plutôt aller à la révolution. C'est la tendance de ceux qui voulaient aller à la révolution qui ont eu raison, qui ont gagné. Puisque le 4 août, il y aura un coup d'État qui s'est opéré, un coup d'État à la suite duquel on a essayé d'appliquer des principes révolutionnaires dans la gouvernance. Comment j'ai réagi? J'ai réagi avec un peu de réserve, avec la suspicion, parce que s'il y avait de la bonne intention de la part de certains de ces révolutionnaires, il y en a aussi qui, par leur pratique méprisante des droits de l'homme, laissaient présager des difficultés pour le pays.
Vous pensez à qui exactement?
Je pense au fait qu'il y avait des exécutions sommaires. Je pense au fait qu'il y avait de la pression sur les citoyens. Je pense notamment à Yorian Gabriel, à beaucoup de militaires, à beaucoup, au Didier Tiendabéro, beaucoup de gens qui ont été assassinés à cette époque-là. Même si l'idée a été plus ou moins acceptable de faire des transformations, de mettre en place une politique qui profite à la majorité, au peuple entier, dans l'exécution de cette politique, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et ça a mené, ce que beaucoup ne savent pas, ça a mené à des divisions, à des contestations, non seulement au sein du CNR, mais dans l'opinion elle-même.
Les idéaux prônés à cette époque consistaient à changer cette mentalité de mendicité, de pauvreté, d'attentisme, etc. Qu'est-ce qui en reste aujourd'hui, selon vous, chez les Burkinabés?
L'idée est bonne. Je crois qu'elle puisse être trop ambitieuse, parce que nous vivons une époque où aucun pays ne peut vivre en autarcie. Et si on prend le Burkina Faso, avec les ressources dont on dispose, avec notre population, est-ce que nous sommes capables, sur la seule base de ces ressources-là, de faire face à toutes les demandes sociales? Ce n'est pas possible.
Alors après le 4 août 83, il y a eu le 4 août 84, la Haute-Volta devient Burkina Faso, pays des hommes intègres. Peut-on parler aujourd'hui d'intégrité au Burkina Faso, selon vous?
Une chose est de proclamer un principe, une autre est d'appliquer ce principe. Ceux qui ont été de la période révolutionnaire, on peut dire que c'est eux qui sont au pouvoir depuis le 4 août jusqu'à aujourd'hui. Donc s'il y a une dilution des valeurs sociales et morales, s'il y a un émoussement des principes d'intégrité, il faut les situer. Donc en fait, l'éthique politique qui était affichée au début n'a pas été respectée. Mais avant cette période-là, les gens se battaient beaucoup plus pour des principes que pour leur intérêt personnel.
Et quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de la jeunesse burkinabé?
On a beaucoup de jeunes qui ne voient l'histoire qu'à partir du CNR. Pour eux, c'est le CNR qui a fondé la nation. Ils ne pensent pas que le pays a existé avant. Alors, pour connaître aussi et évoluer dans l'avenir, il faut avoir aussi une connaissance du passé. Donc, il faut une réconciliation entre la nation et sa mémoire. Donc, c'est sur ça que moi, je vais beaucoup plus plaider et dire aux jeunes, il faut changer de valeur. Il faut aspirer à un autre leadership. Il faut arriver à faire en sorte que la démocratie, la gouvernance, là, s'occupe des questions sociales, beaucoup plus des questions sociales que des questions politiques. On a décrété que nous sommes actuellement dans l'année de la réconciliation. Il faut la réconciliation entre les États, il faut la réconciliation entre l'homme et la nature pour sauver l'avenir. Donc c'est cette réconciliation qui doit être l'outil de bataille de tout le monde pour faire face à tous nos enjeux de développement, pour pouvoir bouter dehors le terrorisme.
Herman Yamiogo, merci.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
C'était l'invité de la rédaction.
Notre invité, Maître Herman Yamiogo. Adama Konaté, la réalisation, Denise Ongrana, la présentation, ainsi s'achève cette édition. Merci de rester toujours fidèle au programme de la Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.